Bonjour, aujourd'hui je présente mon rapport annuel pour 2022. Ce rapport est un résumé des principales activités de notre alliance dans l'année passée. 2022 fut une année charnière pour notre sécurité. La guerre illégale de la Russie contre l'Ukraine entre dans sa deuxième année. Le président Poutine a commis une grande erreur stratégique en envahissant l'Ukraine. Il s'attendait à la chute de Kiev en quelques jours et à celle de l'Ukraine en quelques semaines. Mais il a sous-estimé la résistance sans faille du peuple ukrainien. Il pensait pouvoir briser l'unité de l'OTAN, mais les alliés de l'OTAN sont forts et unis et fournissent un soutien sans précédent à l'Ukraine. Il voulait moins d'OTAN, mais il a obtenu l'inverse, plus d'OTAN. En réponse à la guerre illégale de la Russie, la Finlande et la Suède ont décidé de demander l'adhésion à l'OTAN, ce qui doublerait la longueur de la frontière de l'OTAN avec la Russie. Au sommet de l'OTAN à Madrid, en juin dernier, les alliés ont pris la décision historique d'inviter la Finlande et la Suède à adhérer. Les deux pays se sont saisis des préoccupations de sécurité légitimes de la Turquie et respectaient leurs engagements selon le mémorandum trilatéral agréé à Madrid. La Turquie se tient désormais prête à ratifier l'adhésion de la Finlande à l'OTAN. Une décision dont je me félicite et j'attends avec impatience la ratification par la Grande Assemblée nationale de l'adhésion de la Finlande avant l'élection générale en Turquie. Je me félicite également que le Parlement hongrois votera au sujet de la Finlande la semaine prochaine. Ce qui compte, c'est que la Finlande et la Suède deviennent des membres à part entière de l'OTAN rapidement, non pas s'ils adhèrent exactement au même moment. Je continuerai à travailler pour m'assurer que la Suède devient membre à part entière dès que possible, puisque l'adhésion de la Finlande et de la Suède les rendra plus sûrs, rendra notre alliance plus forte et démontrera que la porte de l'OTAN reste ouverte. Le président Poutine veut une Europe différente. Pour lui, la démocratie et la liberté sont des menaces et il cherche à contrôler ses voisins. Ainsi, même si la guerre en Ukraine se terminait demain, notre environnement de sécurité se trouverait changé dans le long terme. L'invasion par Poutine l'année dernière fut un choc, mais pas une surprise. Il s'agissait du point culminant d'un comportement agressif de longue date. Et en réponse, depuis l'annexion illégale de la Crimée par la Russie en 2014, l'OTAN a mis en œuvre le plus grand renforcement de notre défense collective depuis une génération. Ainsi, lorsque les chars russes ont franchi la frontière vers l'Ukraine, nous étions prêts. En l'espace de quelques heures, nous avons activé nos plans de défense de la mer Baltique à la mer Noire. Nous avons mis 40 000 troupes sous commandement OTAN, avec une présence aérienne et maritime considérable, et nous avons multiplié par deux le nombre de groupements tactiques de l'OTAN, de 4 à 8. En même temps, les alliés de l'OTAN ont fourni à l'Ukraine un soutien important avec des systèmes d'armes avancés et des munitions pour aider l'Ukraine à se défendre et à reprendre son territoire. Nous sommes également en train d'agréer des nouveaux objectifs capacitaires en matière de production de munitions tactiquement décisives en interaction avec l'industrie pour accroître la production afin de soutenir l'Ukraine contre l'agression de la Russie et pour notre propre défense. L'OTAN augmente la protection des infrastructures critiques nationales, notamment les câbles sous-marins et les oléoducs et gazoducs. Nous avons mis sur pied une cellule de coordination pour l'infrastructure sous-marine ici, au siège de l'OTAN, et également mis sur pied une équipe spéciale OTAN-UE. À notre sommet à Madrid, en juin dernier, les alliés de l'OTAN ont agréé une transition fondamentale en matière de dissuasion et de défense, avec de nouveaux plans désignant des forces particulières à la défense de certains alliés particuliers, un plus haut niveau de disponibilité opérationnelle, plus de stocks, plus d'équipements prépositionnement et des dispositions encore plus robustes de commandement et de contrôle. Nous avons agréé un nouveau concept stratégique, le premier depuis une décennie, pour orienter, guider notre alliance en une ère de concurrence stratégique. Celui-ci identifie la Russie comme étant la menace principale pour notre sécurité, ainsi que la menace persistante du terrorisme. Et il précise que la Chine met à défi nos intérêts, notre sécurité et nos valeurs. 2022 fut la 8e année consécutive d'augmentation des dépenses de défense en Europe et au Canada. L'année dernière, les dépenses de défense ont augmenté de 2,2% en termes réels. Depuis que les Alliés aient signé l'engagement en matière d'investissement de défense en 2014, les Alliés européens et le Canada ont dépensé 350 milliards supplémentaires en matière de défense. Nombre d'Alliés ont également annoncé des augmentations de dépenses de défense considérables depuis l'invasion par la Russie. Ces engagements doivent désormais se transformer en véritable argent, en contrats et en équipement, puisque les dépenses de défense sous-tendent tout ce que nous faisons. Depuis 2014, les Alliés ont augmenté leurs dépenses de défense et nous évoluons dans la bonne direction. Mais nous n'évoluons pas aussi rapidement que le nécessite le monde dangereux dans lequel nous vivons. Donc bien que je me félicite de tous les progrès accomplis, il est évident que nous devons en faire plus et nous devons le faire rapidement, plus rapidement. À notre sommet à Vilnius en juillet, je m'attends à ce que les Alliés agréent un nouvel engagement en investissement de défense ambitieux avec 2% du PIB comme niveau minimal d'investissement en la défense. Dans ce monde, ce nouveau monde plus contesté, nous ne pouvons pas prendre notre sécurité pour acquise. C'est notre sécurité qui assure notre prospérité et notre mode de vie. D'après des sondages récents, 82% des personnes dans les 30 pays alliés estiment qu'il est important que l'Amérique du Nord et l'Europe œuvrent ensemble pour notre sécurité partagée. 61% de ces personnes estiment que l'adhésion à l'OTAN rend une attaque depuis un pays étranger moins probable. L'OTAN a permis à l'Europe et l'Amérique du Nord à vivre dans la paix pendant près de 75 ans. Mais le monde d'aujourd'hui est aussi dangereux qu'il ne l'a jamais été depuis la Seconde Guerre mondiale. Les années à venir seront difficiles et l'OTAN doit continuer à être à la hauteur. Sur ce, je suis prêt à entendre vos questions.
We'll start with Reuters, yeah.
Tout d'abord, Reuters. Monsieur le secrétaire général, combien de pays actuellement atteignent l'objectif de 2% d'après vos dernières informations? Et est-ce que ce chiffre reste faible, toute proportion gardée? Est-ce que cela vous inquiète? Voilà, 10 ans pratiquement après la définition de cet objectif, la plupart des alliés n'atteignent toujours pas l'objectif. Réponse. Tous les chiffres actualisés figurent dans le rapport. Vous avez des tableaux et des schémas et vous trouverez là les détails pour chaque pays allié. Et le rapport indique que 7 alliés atteignent désormais 2% du PIB consacré à la défense. Effectivement, nous en attendions davantage, mais le PIB a augmenté dans certains pays. Donc, les pays qui devaient déjà avoir atteint les 2% sont quelque peu en deçà. Mais nous félicitons de ces avancées. Nous avons davantage d'alliés désormais qui consacrent au moins 2% à leur défense. Et il y a un certain nombre d'alliés aussi qui se rapprochent de cet objectif. Tout cela étant dit, il est incontestable que nous devons en faire plus, et cela plus rapidement. La cadence actuelle de croissance de l'effort de défense n'est pas suffisamment élevée. Alors, je me félicite des réalisations des alliés, mais je leur dis qu'il faut en faire plus rapidement dans ce monde dangereux, plus dangereux qui est le nôtre. Et il faut que les alliés atteignent cet objectif de 2%, bien entendu, c'est important, mais les alliés qui étaient désormais autour de 1% se rapprochent de 1,5%, voire plus. L'Allemagne, par exemple, a augmenté considérablement son effort de défense ces dernières années. L'Allemagne n'atteint toujours pas 2%, mais du fait du volume de l'économie allemande et de l'ampleur du budget de défense de l'Allemagne, cette croissance fait quand même toute la différence. Associated Press. Lorne Cook, monsieur le secrétaire général de l'Associated Press. Vous avez rencontré le ministre des Affaires étrangères hongrois et récemment, et d'après des déclarations qu'il a faites à Bruxelles, vous vous entendez organiser une réunion ministérielle avec l'Ukraine. Qu'est-ce qui explique cette décision? Parce qu'il demeure, semble-t-il, des objections de la part de la Hongrie à l'organisation d'une telle réunion. Et je souhaite vous entendre sur le plan de paix avancé par le président Xi Jinping, évoqué actuellement par le président Poutine et Xi Jinping. Commençons par le plan de paix. Il appartient à l'Ukraine de décider quelles seraient des conditions acceptables pour toute résolution pacifique. La Chine doit donc, dans un premier temps, chercher à comprendre le point de vue de l'Ukraine et le dirigeant chinois doit communiquer directement avec le président Zelensky si la Chine a une volonté sincère de favoriser la paix. N'oublions pas que la Chine n'a pas pu jusque-là condamner cette guerre illégale d'agression livrée par la Russie contre l'Ukraine. Cela étant, bien sûr, je me félicite de toute initiative susceptible de déboucher sur une paix juste et durable. La proposition de plan de paix de la Chine comporte certains éléments prometteurs que je soutiens. Par exemple, l'importance de la sécurité nucléaire ainsi que la protection des civils. Et ce plan souligne l'importance de la souveraineté, de l'indépendance et de l'intégrité territoriale, élément important s'il en est. Et tout plan de paix pour l'Ukraine doit absolument reposer sur ces principes-là du respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Il s'agit là du principal élément du plan de paix proposé par le président Zelensky il y a quelques mois de cela. Toute paix durable doit respecter la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine parmi les nations européennes, conformément à la charte de l'ONU. Toute solution qui ne respecterait pas la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'Ukraine ne serait qu'une tentative servant à figer le conflit pour donner la Russie le temps de se reconstituer et de relancer d'autres attaques. Et voilà qui ne constituerait pas une paix juste et durable. Cela ne ferait qu'aider la Russie à conserver les territoires qu'elle a illégalement occupés. Donc je suis demandeur de toute initiative susceptible de déboucher sur une paix juste et durable, mais il appartient à l'Ukraine de décider quelles seraient des conditions acceptables. Et nous devons soutenir l'Ukraine dans son droit de légitime défense prévu par la charte de l'ONU, parce que l'Ukraine se défend contre cette guerre illégale d'agression menée par la Russie. Ensuite, sur la réunion de la commission OTAN Ukraine, effectivement, je compte convoquer les ministres des Affaires étrangères dans quelques semaines à la Commission OTAN Ukraine, parce que j'estime qu'il s'agit de l'enceinte à privilégier pour afficher notre soutien envers l'Ukraine. L'Ukraine est un pays partenaire EOP, nouvelle possibilité. Cela dit, je suis sensible aux questions qui touchent les minorités nationales. Nous avons évoqué directement la question avec l'Ukraine à l'occasion d'autres réunions et cela ne manquera pas de revenir dans notre dialogue. Thank you
very... Politico. Monsieur le secrétaire général, vous aviez dit que vous allez plaidoyer en faveur d'un engagement à investissement de défense plus ambitieux. Pourriez-vous nous donner plus d'éléments de ce que vous allez demander à Vilnius? S'agirait-il d'un engagement sur 10 ans? S'agirait-il d'un niveau de 2% comme auparavant ou est-ce que vous souhaitez un autre chiffre? Tout d'abord, il faut que ce seront aux 30, bientôt 32 alliés à décider quel sera le libellé d'un nouvel engagement pour les investissements de défense. Mais j'œuvrerai pour un engagement plus ambitieux que celui de 2014, tout simplement parce que, bon, certes, la guerre avait commencé en 2014 avec l'annexion illégale de la Crimée et l'entrée par la Russie dans l'est du Donbass, mais l'invasion de février dernier a rendu la situation de sécurité encore plus dangereuse, encore plus difficile. S'il était nécessaire d'augmenter les dépenses de défense en 2014, il l'est d'autant plus maintenant. Il faut également consolider les progrès accomplis. En 2014, la majorité des alliés réduisaient leur budget de défense. Les dépenses de défense en Europe et au Canada décroissaient d'une année à l'autre. Nous étions dans une tendance à la baisse et seuls 3 alliés dépensaient 2% ou plus en matière de défense. Depuis, la situation a changé du tout au tout. Tous les alliés ont augmenté leurs dépenses de défense. Et au total, nous avons 8 années consécutives d'augmentation de l'effort de défense chez les alliés européens et au Canada. La situation donc est tout à fait différente par rapport à 2014 avec cette évolution à la hausse en matière d'efforts de défense. Et donc lorsque nous agréerons un nouvel engagement pour les investissements de défense, il faut consolider les progrès accomplis et tenir compte du fait que le monde actuel est plus dangereux. Ce que je souhaiterais, donc, c'est qu'avec les 2% du sommet du Pays de Galles en 2014, il s'agissait d'un objectif, un plafond à viser. Désormais, les 2% doivent être plutôt un seuil, un minimum. Et nous avions aussi cette perspective sur 10 ans, 2014 à 2024. Désormais, il faut reconnaître le besoin immédiat, 10 ans après l'engagement précédent, et je pense que la majorité des alliés peut parvenir aux 2% très rapidement. Agence France-Presse. Merci beaucoup, Monsieur le Secrétaire Général. Pour revenir sur la question de la Chine, avez-vous davantage d'informations quant à si la Chine prévoit ou fournit déjà des armes à la Russie pour la guerre en Ukraine? Plus particulièrement, quelle est votre méthode vis-à-vis du président Xi alors qu'il rencontre un dirigeant désormais accusé de crimes de guerre? Tout d'abord, nous n'avons pas de preuves que la Chine fournit des armes létales à la Russie. Nous avons, cela dit, constaté qu'il s'agit d'une requête, d'une demande de la part de la Russie, qui fait l'objet de réflexions à Pékin, dans les autorités chinoises. Notre message est donc que la Chine ne doit pas fournir d'aide létale à la Russie. Il s'agirait par là d'un soutien à une guerre illégale, prolongeant la guerre et soutenant l'invasion illégale de l'Ukraine par la Russie. La Chine ne devrait pas faire cela. La réunion actuelle à Moscou fait partie d'une évolution constatée depuis des années avec un rapprochement entre la Chine et la Russie. N'oublions pas que quelques semaines avant l'invasion en février l'année dernière, les présidents Xi et Poutine s'étaient rencontrés à Pékin, signant une déclaration conjointe promettant un partenariat sans limite. Nous voyons que ce rapprochement se poursuit dans le domaine militaire, des exercices et des patrouilles conjointes, mais aussi dans les enceintes politiques, diplomatiques, économiques. Cette rencontre fait donc partie d'un rapprochement général entre la Chine et la Russie, la constitution d'un partenariat de plus en plus fort.
La télévision slovène. Igor Juric, de la télévision slovène. Monsieur le secrétaire général, une question rapidement. Quelles seraient vos remarques pour ce qu'il y ait de l'évolution des relations entre la Serbie et le Kosovo après cette réunion des dirigeants à Ohrid? Oui, je me félicite de cet accord. Ce qui est important à présent, c'est de passer rapidement à la pleine mise en œuvre de l'accord intervenu entre Belgrade et Pristina. Et bien sûr, nous soutenons fermement le dialogue facilité par l'Union européenne, les alliés de l'OTAN, et l'OTAN offre un soutien politique. Et nous restons en contact avec l'Union européenne, ainsi qu'avec Pristina et Belgrade. Et nous soutenons également les recherches d'une résolution pacifique par le truchement de notre mission de la KFOR. Il y a presque 4 000 militaires de l'OTAN au Kosovo, dont la présence est essentielle pour soutenir tout processus politique. Nous sommes donc heureux de cet accord. Le message étant que cet accord doit être rapidement et intégralement mis en œuvre par les deux parties. Frankfurt Allgemeine. Thomas Koschka, deux questions. Je demande d'abord des précisions. Est-ce que la Hongrie a officiellement accepté de convoquer la commission OTAN-Ukraine? Deuxième question sur les munitions. Les ministres des Affaires étrangères, de la Défense et des pays de l'Union européenne ont décidé hier d'offrir à l'Ukraine 1 million d'obus d'artillerie en l'espace de quelques mois. Et le commissaire Thierry Breton se concerte avec les industriels pour débloquer les goulots d'étranglement dans la production pour que tout cela aille plus vite. Et quel serait le rôle de l'OTAN pour accélérer la production et la mise à disposition des obus d'artillerie? Qu'est-ce que l'OTAN peut faire concrètement à cet égard? Oui, pour ce qui est d'accélérer la livraison, l'OTAN a de nombreuses tâches. Tout d'abord, nous fixons des orientations et l'année dernière, nous avons commencé à réviser ces normes en ce qui concerne les munitions tactiquement décisives, dont les obus d'artillerie, afin d'inciter les alliés à accélérer la production. Il faut aussi reconstituer les stocks dans lesquels on a puisé pour offrir des armes à l'Ukraine et les alliés doivent pouvoir continuer à soutenir plus largement l'Ukraine. Donc nous sommes retrouvés avec nos directeurs généraux des armements et les industriels et plusieurs alliés ont déjà passé des marchés. Tout cela, bien sûr, des compétences nationales pour ce qui est de signer des contrats avec des industriels. Mais depuis des années, notamment en ce qui concerne les munitions, nous menons des achats groupés parmi certains groupes d'alliés de l'OTAN. Et avec l'aide de l'agence otanienne, la NSPA. Alors, ce genre d'achat groupé, nous en avons l'habitude depuis des années déjà, et nous allons poursuivre ces pratiques, notamment en ce qui concerne les munitions. La NSPA mène actuellement des projets sur les moyens d'artillerie, ainsi que sur les munitions de défense anti-aérienne et d'autres munitions encore. Alors, je suis heureux de constater que l'Union européenne s'adonne à ce type d'achat groupé aussi. Mais le plus important, ce n'est pas de voir si c'est un groupe de pays ou l'Union européenne ou l'agence de l'OTAN qui achète ces munitions ou si ce sont des alliés à titre individuel qui achètent ces moyens. Le plus important, c'est que ces marchés soient passés avec les industriels afin de renforcer la production. Il y a déjà eu des signatures de contrats et nous nous félicitons de toutes ces initiatives, quelle que soit la configuration. Tout cela nous aide à profiter d'économies d'échelle afin d'accélérer la production. Mais nous avons vu en effet différentes configurations, notamment avec les bons offices de la NSPA. Et jusque-là, les alliés ont offert un soutien militaire de quelque 65 milliards d'euros, en grande partie de la part des États-Unis, mais le Canada et les alliés européens aussi offrent un soutien militaire considérable à l'Ukraine. Il s'agit notamment de financer les munitions. Et quelle était votre question? Oui, j'ai la possibilité en tant que président de convoquer la commission OTAN-Ukraine. Et j'estime que le moment est venu d'organiser une telle séance. Mais bien sûr, je veux que les alliés suivent. Mais en cas de désaccord, j'ai toujours la possibilité de convoquer le Conseil d'Atlantique Nord en différents formats, d'où ma décision.
Switch Radio. Oui, merci, Monsieur le Secrétaire Général. Que voulez-vous dire en termes concrets par la priorité que vous accordez à l'adhésion de la Suède et de la Finlande? Deuxième question. Combien la Suède est-elle incluse dans les plans futurs de l'OTAN pour la mer Baltique du fait de l'adhésion imminente plus rapide de la Finlande? Quelle est la conséquence concrète pour ce qui est des plans de l'OTAN pour la mer Baltique que la Finlande devient membre plus rapidement que la Suède? Tout d'abord, je suis absolument confiant que la Suède deviendra membre à part entière de l'Alliance. Deuxièmement, il s'agit d'une priorité pour moi car j'estime que ce sera bon pour l'OTAN, pour la Finlande, pour la Suède, pour nous tous que la Finlande et la Suède rejoignent l'Alliance dès que possible, d'où mon travail pour parvenir à l'accord. L'année dernière, un accord, une décision historique, tous les alliés de l'OTAN, y compris la Turquie et la Hongrie, ont décidé d'inviter la Finlande et la Suède. Depuis juin l'année dernière, nous avons eu le processus d'adhésion le plus rapide dans l'histoire moderne de l'OTAN. Souvenons-nous que la Finlande et la Suède avaient fait une demande en mai. En juin, ils avaient déjà été invités et depuis lors, la Finlande et la Suède ont une position tout à fait nouvelle au sein de l'OTAN en tant que pays invité. Ils sont ainsi présents à la table de l'OTAN. Nous intégrons de plus en plus la Finlande et la Suède aux structures civiles et militaires de l'OTAN, mais ce processus prendra du temps avec la planification militaire, des objectifs capacitaires, et ce processus n'a pas été reporté par le fait que la ratification ait duré plus longtemps que nous l'aurions espéré. L'intégration militaire se poursuit. Quel que soit donc le statut de ratification en Hongrie ou en Turquie, car le statut de pays invité veut dire que l'on peut être intégré dans les structures militaires de l'OTAN, y compris dans des objectifs de capacité intérimaire. Le processus de planification se poursuit donc et n'a pas été retardé par le processus de ratification. Deuxièmement, pour moi, il s'agit d'une grande priorité. Et je veux dire par cela que j'ai fait ce que j'ai pu avec le président Sauli Niinistö et avec la première ministre Margaret Anderson et avec le successeur en Suède. Nous travaillons pour que l'accord, l'invitation et désormais l'intégration dans les structures civiles et militaires de l'OTAN aient lieu et la ratification aussi. 28 pays ont ratifié. À présent, je me suis rendu à Ankara. Il y a 3 ou 4 semaines, j'ai rencontré le président Erdogan. C'est à cette réunion qu'il a déclaré que la Turquie se tient prête à ratifier l'adhésion de la Finlande, décision dont je me félicite. Et nous voyons désormais des progrès pour la ratification de la Finlande qui aura lieu bientôt. Je l'espère et pour la Suède, le président Erdogan, à la réunion, a décidé de relancer le processus dans le cadre du mécanisme permanent selon lequel la Finlande, la Suède et la Turquie se rencontrent. Ils se sont rencontrés sous mon égide ici à l'OTAN il y a quelques jours, ce qui a donné lieu à l'annonce officielle de cette décision de poursuivre la ratification de la Finlande. Mais bien sûr, à cette réunion, nous avons également la possibilité de parler de comment progresser s'agissant de la ratification de la Suède. Nous continuerons à nous rencontrer. J'ai parlé au président Erdogan vendredi et nous avons décidé ensemble de poursuivre les consultations et les réunions afin de nous assurer de pouvoir progresser s'agissant de la ratification de la Suède. Je me suis adressé ce matin au ministre des Affaires étrangères de la Hongrie qui a confirmé qu'il y aurait un vote le 27 mars dans le Parlement hongrois. S'agissant de la ratification pour la Finlande, et nous continuerons avec les progrès pour la ratification de la Suède. Interfax Ukraine. Merci, agence d'actualité de l'Ukraine. S'agissant de la commission OTAN Ukraine, Monsieur le secrétaire général, est-ce que cela veut dire que désormais ce type de réunion aura lieu régulièrement et que la participation du président ukrainien, M. Zelensky, à Vilnius sera également dans cette configuration Commission OTAN Ukraine. Deuxième question, ne pensez-vous pas que le moment est venu de renoncer à l'accord de Rome entre l'OTAN et la Russie qui a donné lieu au Conseil OTAN-Russie? Les alliés de l'OTAN ont souhaité un dialogue avec la Russie pendant des années. La Russie s'en est écartée. Il n'est plus possible d'avoir un dialogue utile avec la Russie, avec cette guerre illégale en Ukraine. Mais nous nous sommes servis du Conseil OTAN-Russie. Juste avant l'invasion, souvenez-vous que nous nous sommes rencontrés ici en janvier, quelques semaines seulement avant la guerre, avant l'invasion, afin de les convaincre par tous les moyens diplomatiques possibles de la Russie de se désister, le président Poutine de ne pas mener à bien ses plans d'invasion de l'Ukraine. Le Conseil OTAN-Russie a été un instrument important pour tenter de mettre en place un dialogue avec la Russie. Nous avons tenté de prévenir l'invasion de l'Ukraine, mais depuis l'invasion, cette enceinte est dénuée de sens, puisque nous ne pouvons pas avoir de dialogue conséquent avec un pays responsable d'une guerre illégale d'agression contre son pays voisin. Nous n'avons donc pas de réunion en Conseil OTAN-Russie désormais. S'agissant maintenant du Conseil entre l'OTAN et l'Ukraine. Il s'agit d'un cadre préétabli. J'ai le mandat nécessaire pour le convoquer. Je suis conscient des questions soulevées par la Hongrie. Je ne l'ai pas convoqué depuis un certain temps, mais je convoquerai les réunions de la Commission OTAN-Ukraine, en commençant par une réunion à la ministérielle Affaires étrangères. Je n'en ai pas prévu d'autres à ce stade, mais bien sûr, ce ne sera pas un événement isolé. Les réunions se poursuivront. S'agissant du sommet, nous n'avons pas de décision finale quant aux configurations dans le programme, mais j'inviterai le président Zelensky au sommet. Dans quelle configuration cela n'a pas encore été décidé.
Nathalie Jeziak de Bloomberg. Je me fais l'écho de cette question sur la ratification pour la Suède. D'après vous, est-ce que la Turquie et la Hongrie vont ratifier pour la Suède d'ici le sommet de Vilnius? Ensuite, pour ce qui est des chasseurs MiG offerts par la Pologne et la Slovaquie, d'après vous, qu'est-ce que cela va changer sur le champ de bataille? Est-ce que des alliés auraient exprimé des inquiétudes face à ces fournitures, notamment en ce qui concerne le risque d'escalade? Sur la Finlande, d'après les annonces faites par la Hongrie et par la Turquie, alliés qui n'ont pas encore ratifié le protocole d'adhésion pour la Finlande, eh bien, je m'attends à ce que la Finlande puisse devenir membre de l'Alliance avant les élections turques. La Hongrie a bien précisé que le protocole sera mis aux voix au Parlement hongrois le 27 mars. Voilà, je me fie là aux déclarations publiques et aux propos qu'on m'a confiés. Et la Turquie indique son intention de ratifier le protocole avant le congé parlementaire en Turquie, avant les élections générales. Bien sûr, je ne peux pas parler au nom des parlements nationaux qui sont les décideurs. Alors, je me garde de parler au nom des parlements. J'ai été moi-même élu. Ce sont des instances souveraines qui prennent des décisions souveraines, mais si je me fie à ces annonces entendues de part et d'autre, la Finlande deviendra membre très rapidement avant la fin de la séance parlementaire turque actuelle. Là encore, je m'en remets aux déclarations faites. Pour la Suède, je ne fixerai pas de date, mais cela reste la priorité des priorités et je ne vais ménager aucun effort afin que la Suède devienne membre à part entière et pour que la ratification aboutisse le plus rapidement possible, d'où mes déplacements à Ankara et à Stockholm et à Helsinki. Et c'est pourquoi j'ai convoqué le mécanisme trilatéral permanent ici au siège et je multiplierai les démarches auprès de tous ces pays pour que la ratification intervienne le plus rapidement possible, y compris pour la Suède. Monsieur, avec des lunettes là-bas. Monsieur le secrétaire général, nous voyons des niveaux sans précédent depuis la crise de 2015 pour ce qui est des flux migratoires en Méditerranée. L'Italie vient d'établir un lien entre ce phénomène et une stratégie délibérée de déstabilisation russe. Or, le concept stratégique de l'OTAN met en avant une logique à 360 degrés de la sécurité et reconnaît la Méditerranée comme théâtre. Mais est-ce que vous croyez que la migration pourrait être utilisée comme arme hybride? Est-ce que l'OTAN serait prête à en faire davantage de ce point de vue-là? Et je souhaite vous demander si vous seriez disposé à accepter une deuxième prolongation de votre mandat. Commençons par le Sud. L'OTAN a une présence importante au Sud et en Méditerranée afin de lutter contre le terrorisme et afin de contrer l'instabilité. Nous participons aux efforts de l'Union européenne pour stopper les flux migratoire illicite. Il y a une présence otanienne en mer Égée, par exemple, pour faciliter la mise en œuvre de l'accord entre la Turquie et l'Union européenne pour contrer la migration illégale. Cette présence est assurée depuis quelques années et nous collaborons avec des partenaires tels que la Mauritanie, la Tunisie, afin d'aider ces pays à renforcer leurs institutions de sécurité et de défense pour stabiliser davantage leur pays, cela afin de s'en prendre aux causes fondamentales du problème migratoire. Alors nous voyons aussi une présence russe accrue au sud, en Afrique. Il y a notamment la présence de la société Wagner. Et voilà qui montre que l'OTAN n'a pas le luxe de choisir entre l'un ou l'autre vecteur de menace. Nous devons pouvoir aborder de front toutes ces menaces qui sont d'intensité et de nature différente. Mais l'OTAN doit pouvoir simultanément contrer toutes ces menaces. Et notre action sur les infrastructures est essentielle, concerne aussi le Sud, parce qu'en Méditerranée, il y a aussi des câbles sous-marins. L'OTAN est une alliance militaire qui a ses moyens, alors que l'Union européenne a d'autres moyens. Et nous n'avons pas tous les moyens pour chercher à régler les problèmes des flux migratoires, mais nous allons continuer à nous concerter avec les alliés et nous allons intensifier notre action avec les pays partenaires en Afrique et en Irak aussi. J'ai pu rencontrer le ministre des Affaires étrangères de l'Irak hier et nous avons une mission de formation afin d'aider les Irakiens à stabiliser leur pays. C'est encore un autre moyen de s'en prendre aux causes profondes de la migration illicite. Presse géorgienne.
Merci, Monsieur le Secrétaire général. J'ai deux questions à propos de la Géorgie. Tout d'abord, en amont du sommet de Vilnius cet été, nous attendons plus de soutien de la part de l'OTAN. Que pouvez-vous nous dire à ce sujet dans le cadre de cette évaluation de 2022 et par ailleurs, pouvez-vous faire part de votre avis sur la situation récente en Géorgie avec le dépôt d'un projet de loi devant le Parlement rejeté il y a quelques jours. Je salue cette décision par le Parlement géorgien de rejeter ce projet de loi contre les agents étrangers projet incompatible avec les valeurs euro-atlantiques et la protection des libertés fondamentales. Je me félicite du retrait de cette proposition et que le Parlement à Tbilissi ne l'ait pas soutenue. J'encourage les dirigeants politiques géorgiens à travailler ensemble pour les réformes urgemment requises et bien sûr l'OTAN à travailler elle-même avec le gouvernement géorgien pour la mise en œuvre de ces réformes de renforcement des institutions démocratiques, des services de sécurité et de lutte contre la corruption. Le peuple géorgien l'a déclaré, il veut une Géorgie prospère et démocratique intégrée dans la région euro-atlantique et l'OTAN restera partenaire à ses aspirations. Télévision nationale de l'Islande. Vous avez beaucoup parlé de l'Ukraine, bien sûr, l'Alliance s'est beaucoup concentrée sur ce pays depuis des mois, mais restez-vous conscient des activités, vigilant par rapport aux activités de la Russie dans le Grand Nord et quel serait l'impact de l'adhésion éventuelle de la Finlande et de la Suède sur le flanc nord? L'adhésion de la Finlande et de la Suède renforceront l'OTAN à bien des égards, un renforcement généralisé de l'OTAN puisque la Finlande et la Suède ont des forces armées à grande capacité, compétentes, bien équipées. Et nous avons travaillé depuis des années avec la Finlande et la Suède, une marine, une armée de l'air et des forces terrestres à grande capacité qui augmenteront également notre connaissance de la situation dans le Grand Nord. Ces deux pays sont également des pays arctiques en mesure de mener des opérations dans ces conditions-là. Cela accroîtra notre capacité également d'utilisation de l'espace aérien dans le Grand Nord et d'opérations transfrontalières dans la région Grand Nord. Ce qui est important pour le Grand Nord, pour l'OTAN dans son ensemble, mais aussi pour les pays de la région Baltique. La protection de la région Baltique sera changée du tout au tout par l'adhésion de la Finlande et de la Suède. Et donc, je me félicite que tous les alliés les aient invités, que cette adhésion soit bientôt ratifiée pour la Finlande après les annonces d'Ankara et de Budapest. Et je continuerai à œuvrer pour la ratification dès que possible de l'adhésion de la Suède. Pour le Grand Nord, il s'agit d'un sujet important pour l'OTAN depuis des années. Nous avons ainsi une présence importante là-bas. Plusieurs alliés sont des pays arctiques, dont l'Islande. Nous sommes présents en Islande. Les avions de l'OTAN sont là-bas. L'Islande est important s'agissant de la surveillance des déplacements militaires de la Russie dans le Grand Nord, les sous-marins, les navires et les avions russes. Et les alliés investissent en plus de capacités, notamment des chasseurs de cinquième génération qui augmenteront nos capacités de surveillance et de suivi de la situation dans le Grand Nord. Plus de navires, plus d'exercices. La semaine dernière seulement, je me suis rendu avec la présidente von der Leyen, notamment vers des sites, la plateforme Troll de gaz en mer du Nord, ce qui est important pour la région nordique, mais aussi l'approvisionnement en gaz de l'Europe. 10% de cet approvisionnement provient de cette plateforme particulière et donc l'OTAN monte au créneau pour la protection des infrastructures critiques, ce qui est le cas également dans le Grand Nord. Donc le Grand Nord est et restera important pour l'OTAN. Le dérèglement climatique rend le Grand Nord encore plus important. Avec la fonte des glaces, il devient possible de mener plus d'opérations pendant plus longtemps dans cette région, ce qui augmente son importance stratégique.
Merci, je sais que vous avez d'autres questions, mais nous n'avons plus de temps. Cela dit, je vous invite à prendre le rapport annuel sur papier à la sortie et j'espère vous retrouver nombreux à notre réception annuelle destinée à la presse. Merci.